Bien, dernière étape, effectivement, alors, rapport de synthèse, le mot est un peu ambitieux, mais synthèse, oui. J'étais en train de dire à notre animateur qu'elle n'allait pas être trop difficile, parce que finalement, je ne connais pas votre point de vue, mais j'ai trouvé que cette journée avait une très grande cohérence, ce qui n'est pas toujours le cas dans les séminaires, très grande cohérence entre finalement les aspects théoriques et puis les aspects rapportés par les expériences. Je pense qu'il y a vraiment un accord de fond doctrinaire qui a dû vous apparaître, vous sauter aux yeux. Je vais revenir un petit peu d'ailleurs sur ces aspects-là. Par contre, il y a des points qui peuvent encore faire débat, bien sûr, parce que, notamment dans la mise en œuvre proprement dite, pas sur la doctrine, mais sur la mise en œuvre proprement dite, on voit qu'il y a parfois des écarts d'interprétation, alors, en fonction probablement de sensibilité, d'histoire institutionnelle, de champ aussi d'intervention. Voilà, donc je reviendrai sur ces différents points. Ce qui ressort très, 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 très clairement, c'est que le case management s'inscrit bel et bien, comme je l'ai évoqué ce matin, dans une évolution historique, auquel la France, effectivement, a pris part peut-être un peu plus tardivement que d'autres pays, mais dans une évolution historique des principaux pays développés. Voilà. Il y a des points qui font vraiment consensus aujourd'hui, c'est l'idée de faire du sur-mesure, de faire juste ce qu'il faut, c'est la participation des personnes, la personne est au cœur de son cheminement, de son parcours, de sa prise en charge, donc elle doit être consultée constamment, également consensus sur l'idée de permettre aux personnes le plus vite possible de reconquérir une certaine autonomie, voire une autonomie certaine, de se retrouver très rapidement dans le droit commun et de sortir de systèmes d'exception. Également, consensus sur l'idée que le case management est une méthode qui recherche de l'efficience, c'est-à-dire un rapport entre investissement et efficacité. Ça s'est revenu très très fortement. Alors, efficacité dans l'intérêt de la personne, bien sûr, efficacité aussi dans l'utilisation des ressources, c'est pas négligeable. Tous les pays développés sont très soucieux aujourd'hui, pour différentes raisons que j'ai évoquées rapidement ce matin, sont très soucieux de maîtriser et de contrôler les dépenses. Donc consensus aussi sur les constats d'efficacité, justement, parce que les études le montrent, les enquêtes de satisfaction le montrent, ça a été évoqué largement par nos intervenants, le but c'est de diminuer effectivement des traitements lourds, c'est de diminuer des prises en charge longues, aussi tant que faire se peut, c'est parfois d'éviter des événements indésirables, voire même des événements très dramatiques, on évoquait le suicide. Donc on sait qu'avec l'expérience plus longue d'autres pays, que le case management possède une certaine efficacité indiscutable, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il se développe. Donc sur l'aspect doctrinaire, je vais dire, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de choses qui prêtent à débat. Il y a un consensus qui était tout à fait remarquable à travers les rapports, les témoignages de différents intervenants, quel que soit leur champ. Je fais référence toujours à l'histoire, si vous voulez, mais c'est vrai que comment on est venu là? J'ai évoqué la montée des droits ce matin, évidemment, mais on peut aussi évoquer des évolutions intellectuelles qui ont été marquantes au cours des dernières décennies. Alors, des évolutions intellectuelles, par exemple, en termes de diversité des approches, mais aussi en termes de reconceptualisation. Je fais référence, par exemple, à la reconceptualisation par l'OMS de la santé, tout simplement, déjà, état du bien-être général. Donc, ça montre que la santé, du coup, n'est plus un concept étroit, c'est plus le silence des organes, en quelque sorte, on disait à une époque, mais c'est un concept extrêmement élargi, qui finalement nous concerne absolument tous. Voilà. Et on a rappelé aussi le nombre de gens concernés, aussi par des problèmes de santé mentale, d'ailleurs, puisqu'on estime à peu près à 20% de Français qui, de près ou de loin, présenteraient un certain nombre de fragilités psychiques ou de troubles plus importants. Donc c'est pour dire que cette reconceptualisation, elle change la donne. Puisque je me souviens d'une citation du professeur Tomkiewicz il y a très longtemps qui disait, à l'époque justement de ces chambardements conceptuels, qui disait, nous autres médecins, ça nous surprend un petit peu parce qu'il faut convenir qu'on peut être finalement malade et en bonne santé. Voilà, c'est assez troublant. Voilà. On a connu aussi la reconceptualisation du handicap. la CIH, qui était confidentielle en France, c'est presque passé inaperçu, la classification de Wood, publié en 80, adopté par la France en 88. Il y a très peu de gens qui se sont intéressés. Il y a un certain professeur Shapiro, par exemple, qui s'y est intéressé. Je vous convie d'ailleurs à lire si vous voulez en savoir plus sur l'évolution du handicap en France, à lire un de ses chapitres. Il a créé un chapitre dans un ouvrage de Marcel Gégère, dirigé par Marcel Gégère, un vieux de la vieille, entre guillemets, prof de chaire au CNAM, en travail social, qui a écrit un livre qui s'appelle « Usager ou citoyen ». Le titre déjà est assez évocateur, « Usager ou citoyen ». Et dans cet ouvrage, le professeur Shapiro a produit un chapitre, de mémoire, il me semble que c'est le chapitre 3, qui porte justement sur l'histoire du handicap à la française, où il montre que le handicap en France, en fait, a été basé sur une notion issue de la guerre de 14, l'invalidité. Vous savez qu'il faut toujours aujourd'hui, pour un RQTH, se prévaloir, si on peut dire, d'un taux d'invalidité de 80%, par exemple. Voilà. Et il montre que ce système, le concept de handicap à la française, a plongé la France dans un univers à part, puisque finalement, ça nous a fait passer à côté des évolutions internationales. Au plan international, il y a eu la CIH, bien sûr, mais il y a eu ensuite la CIF, hein, dans les années 2000, qui a reconceptualisé le handicap comme la situation du handicap, comme une limitation de l'autonomie et de la participation sociale. Donc vous voyez, du coup, le handicap ne se qualifie plus. Il n'y a plus de handicap mental, même plus de handicap psychique. Shapiro explique très bien pourquoi on a inventé le handicap psychique. C'était parce qu'en France, pour avoir des droits, il faut avoir un label, il faut avoir un statut. Être handicapé en France, c'est un statut qui ouvre des droits. Donc ces gens-là, étant chassés de la psychiatrie, finalement, il fallait trouver des solutions. Donc il fallait une reconnaissance comme handicapé. Ça arrangeait bien la puissance publique, puisqu'en fait, maintenant, n'étant plus malades mentales, ils ne relèvent plus forcément du sanitaire, mais du médico-social, au titre des personnes handicapées psychiques. Et une place dans le médico-social, c'est moins cher, évidemment. Donc, Shapiro explique très bien tout ça. Lisez ce chapitre, vous voyez, il est tout à fait remarquable. Donc, nous sommes le seul pays au monde à avoir un secrétaire d'État aux personnes handicapées. On est le seul pays au monde à avoir charcuté le handicap. Vous avez le poly, le pluri, le multi-handicap. Et d'avoir conçu toute une archipel d'établissements. Il y a les SAVS, les SAMSA, les SATAV, les CESAD, les SIAD, les SAAD, les SAED, etc. C'est absolument démentiel. Les SPASAD, les SAPAD, enfin, j'en passe. Donc il y a des spécificités françaises, vous voyez, qui s'expliquent très bien parce qu'on est passé à côté des évolutions internationales qui nous ont rattrapés, notamment à partir de 2010, puisqu'on a une flopée là, de textes qui nous tombent dessus. Certains sont européens, d'autres sont franco-français, comme par exemple un texte également très peu connu, c'est le protocole d'accord passé entre les départements, l'Association des départements de France, l'ADF, et les principales organisations du handicap adulte, qui date de 2012. Et ce texte, déjà, évoquait la nécessité d'une coordination, posait les questions qu'on s'est posées aujourd'hui. S'agit-il d'un nouveau métier ? Faut-il quelqu'un indépendant ou finalement d'affilié, par exemple, au NDPH, etc. 2012 déjà. 10 ans. Vous pourrez citer le rapport Vachet-Jeannette 2012 également, etc. Donc la France a essayé de rattraper son décalage et son retard, ce qui explique du coup que ce qu'on évoque là, c'était confidentiel il y a 10 ans. Imaginez un séminaire sur le case management il y a 10 ans. Ça aurait été beaucoup plus curieux. Aujourd'hui, on voit que finalement, ça ne surprend plus. Donc un progrès extrêmement important. Je retombais sur une citation d'un des fondateurs de l'antipsychiatrie américaine. Même si mon antipsychiatrie, peut-être pas le bon mot, parce que finalement, il ne s'agit pas d'être contre la psychiatrie, mais peut-être de réinventer la psychiatrie. Mais en tout cas, Thomas Sass, médecin, psychanalyste, a été un des papes, finalement, de l'antipsychiatrie américaine. Et dans un de ses ouvrages, il disait, voilà, il opposait la psychiatrie institutionnelle et ce qu'il appelait une psychiatrie contractuelle. Et il dit, par psychiatrie institutionnelle, j'entends les interventions psychiatriques imposées par des individus à d'autres. Ces interventions se caractérisent par une perte de contrôle totale du client ou patient sur sa participation à sa relation avec l'expert. Par psychiatrie contractuelle, j'entends généralement les interventions psychiatriques assumées par des personnes motivées par leurs propres problèmes et leurs souffrances. De telles interventions sont caractérisées par la conservation du contrôle total par le client ou le patient sur sa participation à la relation qu'il entretient avec l'expert. Bon, ce texte date du milieu des années 60. Finalement, vous voyez, il n'a pas perdu son actualité chez nous. Voilà. Donc, ce n'est pas sur la doctrine qu'il y a vraiment débat. J'ai noté, par contre, qu'au cours de la journée, bon, il y avait eu des questions qui avaient été posées, les réponses ont été dans l'ensemble satisfaisantes, mais ça a mis en évidence quand même des différences d'interprétation notables sur la mise en place. Bon. Alors, on peut reprendre quelques points de ce type-là. par exemple, le nombre de situations suivies, déjà. Alors, on parle de 15, ça paraît beaucoup. Au plan international, il y a un consensus. Aujourd'hui, ils ont le case management qui est plus proche de 40 situations. Hein, c'est à peu près le chiffre qu'on retient. Bon. Alors, il y a des opérateurs qui ont mis en place aujourd'hui de tels services et qui confient jusqu'à 60 situations. Voilà. Et là, je dis, stop, c'est pas réaliste, c'est pas plausible. Voilà, c'est pas plausible. Alors, comment on arrive à ces chiffres? C'est simple. On a les tableaux de bord d'un certain nombre de tâches qui sont incompressibles, si vous voulez, hein, qui sont des tâches d'entretien, des tâches de contact avec tout ensemble d'acteurs, de l'environnement, des tâches de prise de connaissance de documents, etc. Donc, on liste toutes ces tâches. Et même si on est bien organisé, on arrive forcément à un plancher, ou un plafond, comme vous voulez, plutôt, en l'occurrence. C'est qu'au-delà, on ne peut pas sérieusement mener ces tâches à bien. Voilà. Maintenant, c'est une moyenne, donc il faut tenir compte de la complexité des situations. Des situations qui prennent plus de temps que d'autres, c'est indéniable. Ça dépend du champ dans lequel on est aussi, bien sûr, hein, puisque on l'a bien compris, par exemple, on l'a vu dans ce qui est propre au sanitaire, c'est parfois des notions d'urgence, des notions aussi de situation vitale, hein, de mise en danger, etc., qui sont parfois très, très importantes. Donc il y a des spécificités propres à chaque secteur. Voilà. Mais c'est vrai que 15-20, on est plutôt sur ce qu'on appelle les situations complexes. Voilà. Mais sur d'autres situations, 15-20, ça serait quand même du luxe. Voilà. Et effectivement, quelqu'un a rappelé que dans d'autres secteurs, on était beaucoup plus haut. Songez simplement au nombre de dossiers que suivent des mandataires judiciaires, par exemple. Hein, on est très très loin de ces chiffres-là. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, mais que bon, c'est l'expérience qui dira ce qu'il en est. Je pense qu'il y a des différences d'interprétation. Quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus si c'est ce matin d'ailleurs, tout à l'heure, a dit il faut insister sur le fait que c'est un métier à part. Bon. Et on a vu que ce n'était pas forcément tout à fait le cas selon les expériences. On retrouve ce débat d'ailleurs dans d'autres pays où les case managers parfois font une partie d'une autre fonction, peuvent être par exemple accompagnateurs, éducateurs, infirmiers, etc., et sont aussi case managers. D'où la remarque tout à l'heure qui a été faite par Dr. Goslan, c'est une fonction, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, je dirais presque une mission, enfin, qui se rajoute. Soit on interprète différemment cette fonction et on la voit effectivement comme à part entière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose et du case management. Voilà. Il y a ces deux versions, pour faire simple, ces deux interprétations principales. Et qui renvoient à quelque chose qui a d'autres conséquences. C'est la place de cette personne au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Si cette personne fait ça à temps plein, elle aura tendance à être beaucoup plus indépendante et être davantage plus proche des personnes concernées. Elle ne fait plus partie d'une équipe pluridisciplinaire. Soyons clairs, elle ne fait plus partie d'une équipe pluridisciplinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a de mauvais rapports ou qu'elle n'agit pas en coopération. Bien sûr que oui, mais la coopération, ce n'est pas l'appartenance forcément à une même équipe. Okay ? On peut très bien coopérer avec des intervenants libéraux, par exemple, il n'y a aucun souci. Si, au contraire, cette personne est considérée comme insérée dans une équipe pluridisciplinaire, dans un service préexistant, parce qu'elle continue d'y remplir une certaine fonction, alors sa position va être différente, sa légitimité va être différente, etc. Je ne dis pas que ça pose des problèmes insurmontables, je ne dis pas qu'une chose est bien ou pas bien, je dis simplement qu'il faut se prononcer, il faut assumer un choix, et sous-peser ce choix en fonction de ce qu'on veut faire, des avantages et inconvénients qui peuvent exister, finalement, entre les deux domaines. Alors, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, encore une fois, et dire c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis, voilà, on a ces situations qui existent. Alors, dans le champ sanitaire, c'est vrai que je remarque quand même globalement qu'on est plutôt dans la version... case manager intégré finalement à un service, hein, souvent on sollicite pas seulement évidemment que des infirmiers, ça a été dit et répété, mais enfin quand même on sollicite des gens, on est très attaché à la notion d'équipe pluridisciplinaire. Je vois que dans le médico-social, moi en tout cas après ce que je vois, on a beaucoup plus des coordinateurs de parcours qui sont à temps complet, c'est-à-dire qui ne font que ça. Alors pour des raisons aussi simples qu'on peut expliquer, on se rend compte que c'est toujours compliqué de faire plusieurs choses à la fois, parce que ça exige des qualités très différentes. Voyez Ça pose des problèmes d'organisation, ne serait-ce que d'emploi du temps. Vous voyez, si je dis je suis à tiers-temps, par exemple, éducateur, tiers-temps infirmier, il y a deux tiers-temps case manager, c'est compliqué, c'est déjà très compliqué d'organiser son temps en tant que case manager. Ça peut être encore plus compliqué si on fait autre chose. Après, il y a un problème de casquette et de relation. Ce n'est pas simple de dire à quelqu'un « Ah, à ce moment-là, je remplis telle fonction. » Et puis, quelques temps après, « Ah, je suis effectivement là pour parler avec vous de votre projet de vie, de vos aspirations. J'ai changé de casquette entre-temps. » Donc, ça peut poser des questions. Voilà. Donc, en tout cas, ça fera partie des questions qu'on va se poser. Et ça rejoint ce qui a été évoqué aussi par différents participants ce matin. Ça pose la question de la légitimité, ça pose la question aussi, évidemment, de la place, de la formation, bien sûr. Hein, voilà. Bon, sur les compétences, à proprement parler, requises, je crois qu'il y a consensus, globalement. Hein, on l'a dit, il y a des compétences relationnelles. Tout le monde a insisté là-dessus, et tant mieux. Je pense que tout le monde a bien compris que c'était d'abord un changement de prisme, d'attitude, de relation, de posture. Ça, c'est clair. Bon. Pas entendu, en tout cas, de contradiction entre les différents intervenants sur ce point. Qu'il y ait des compétences techniques, méthodologiques, oui, savoir mener un projet, avoir une connaissance quand même du champ dans lequel on intervient, ça semble évident, les dispositions légales, les bonnes pratiques, etc. Qu'il y ait également des compétences organisationnelles, ça aussi, ça a été rappelé et souligné, puisque c'est une... un mode d'intervention qui est assez indépendant, quand même. Voilà. Donc, c'est surtout sur ce point-là qu'à mon avis, il y a à réfléchir cette question de l'interprétation. Autre aspect aussi qui a été largement évoqué, c'est que le case management réinterroge les organisations et même le management. Réinterroge les organisations, c'est sûr, hein, on vient de le voir. Alors, ça crée ça entraîne la nécessité d'organisation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus horizontale, comme ça a été dit, tout en gardant la spécificité. On l'a vu, hein, on peut pas, c'est facile à comprendre en termes de compétences, s'occuper de tout, s'intéresser à tout, mais on est de plus en plus conscient que son action est en interaction avec d'autres et qu'il faut travailler en coopération, en collaboration avec d'autres intervenants. Donc, ça entraîne des organisations beaucoup plus souples, beaucoup plus ouvertes sur leur environnement, ce qui, forcément, s'accompagne, encore une fois, d'une remise en question d'un certain nombre d'organisations traditionnelles. On voit bien que les grosses institutions traditionnelles qui avaient un fonctionnement au fond, cherchaient à faire en sorte que les personnes intègrent leur fonctionnement, hein, elles obéissaient à une logique de place, voilà, et souvent elles cherchaient à remplir. Et j'entends encore ici ou là des directeurs d'établissement qui me disent « Ah ben, on n'arrive plus à remplir. » Je leur dis « Mais réjouissez-vous, c'est fantastique. Bon. » Je prends une anecdote, j'aime bien prendre des exemples concrets, mais j'étais intervenu auprès d'un foyer de vie qui accueillait des personnes qui présentaient... Alors, à la fois des troubles moteurs, mais aussi un certain nombre de difficultés psychologiques, parfois associées. Et cette directrice, je la connaissais bien, donc justement, elle me disait, on ne sait plus quoi faire, on n'attire plus, il n'y a plus personne qui veut être hébergé chez nous, c'est terrible, etc. Et je lui dis, oui, mais c'est logique, vous avez affaire à des personnes qui sont de plus en plus jeunes, au fait de leurs droits, et qui n'ont plus envie de passer leur vie hébergée, comme ça, éternellement, vous voyez. Est-ce qu'aller dans un EHPAD, pour vous, ça vous fait fantasmer? Est-ce que vous dites, dans le futur, c'est génial? Voilà, non, personne n'a envie d'aller dans un EHPAD. Tous les EHPAD ne sont pas non plus des infernaux. Hein. Bon, l'actualité a montré certaines dérives qui sont tout à fait réelles, hein, et assez nombreuses. Mais j'ai vu des EHPAD quand même, qui ne fonctionnaient pas comme ça, qui fonctionnaient nettement mieux. Mais quand même, même si vous avez affaire à des gens plutôt sympathiques, on n'a pas envie de vivre en EHPAD. Et je crois que tous les sondages l'ont montré, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de vivre dans l'institution. Ce n'est pas vrai. Voilà. On y va contraint et forcé. Voilà. Donc ça, c'est une évolution considérable des mœurs. Et ça veut dire que nos organisations, elles sont réinterrogées. Elles ne peuvent plus fonctionner sur le même mode et se contenter d'offrir des places, des prises en charge. Mais elles doivent au contraire, si vous voulez, sortir de leur mur, aller dans l'environnement de la personne, s'adapter finalement à ce que souhaite la personne. Voilà. On a parlé de rêve, on a parlé d'aspiration. J'ai entendu ces mots. Voilà. Ça, ça me semble important. Moi, j'ai envie de vraiment insister sur le projet de vie. Encore, vous allez me dire, un concept anglo-saxon, on n'a vu que ça au cours de la journée, mais c'est comme ça. C'est que, bah, tout simplement, oui, il faut admettre qu'on est plus ce qu'on a été. On a été la deuxième puissance mondiale au 19e siècle, on a été un pays de chercheurs, de savants. Maintenant, bon, voilà, on a beaucoup dégringolé, il faut le dire. Et dans beaucoup de domaines, effectivement, on emprunte aux autres. Voilà. Bon. Donc, le projet de vie, c'est le life map. Chez les anglo-saxons, c'est assez plus imagé, parce que ça veut dire carte de vie. Ça veut dire, au fond, c'est, en gros, vous voulez aller où, vous ? Voilà, vous voulez faire quoi de votre vie ? Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est le moteur. Je dis toujours, le projet de vie, c'est le moteur. Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie ? C'est nos rêves, c'est nos aspirations. Si vous cassez les rêves, si vous cassez l'espoir, si vous cassez les aspirations, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin ? Vous voyez ? Voilà. Dans ce monde horrible, ce monde de brutes. Et oui, tous les jours, il y a des guerres, il y a des morts, etc. Bon, c'est pas si drôle que ça, finalement, la vie, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui nous fait, finalement, continuer de vivre, se lever le matin, faire des choses ? Voilà. C'est une série de rêves d'espoir. Et il faut relancer la machine. Il faut redonner de l'espoir aux gens. Et c'est le projet de vie. Alors, ça peut être des choses grandioses, ça peut être des choses très terre-à-terre. Il y a des personnes qui veulent des choses très simples. J'ai rencontré des personnes qui voulaient tout simplement aller faire leurs courses tout seul. C'était ça, leur truc. Voilà. Et oui, on ne peut pas se mettre à la place de chaque personne. Chaque personne a ses aspirations, ses rêves. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projet de vie, au fond. Vous voyez, on peut vivre comme Sœur Teresa ou comme Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Il n'y a pas un projet de vie. Il y a des interprétations de la vie. Et c'est ça, le projet de vie. Condition, si possible, bien sûr, de rester dans un cadre légal, mais voilà, c'est le projet de vie, c'est du sérieux. C'est pas un outil, vous voyez, bizarroïde que j'entends parfois, mais c'est quoi le projet de vie, c'est, voilà. Non, projet de vie, on a tous un projet de vie, sauf qu'en général, on ne l'écrit pas. On l'a tous dans la tête. Si vous commencez à discuter avec des gens, ils ont tous des idées sur ce qu'ils aspirent, sur ce qu'ils souhaitent en matière de logement, en matière de consommation, en matière de relations affectives aussi. On n'a pas parlé, mais on aurait pu parler de love coaching, très important. Une des préoccupations, évidemment, vitales chez beaucoup de gens, c'est quand même les relations affectives. Bon, donc, voilà, tout ça, c'est très concret, finalement. Projet de vie, c'est pas qu'un concept, c'est pas une abstraction, c'est quelque chose de très, très important. Donc, je pense que là-dessus, il y a consensus sur l'idée de relancer l'espoir, de relancer les aspirations. On l'a vu à différentes reprises au cours des interventions. Mais nos institutions, quand même, elles résistent. Vous voyez, elles résistent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que toute institution finit par travailler pour elle-même. C'est un théorème sociologique. Toute institution finit par faire de sa pérennité son objectif ultime. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Elle finit toujours par travailler pour elle-même. Ce n'est pas péjoratif. C'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut réinterroger régulièrement les institutions, les remettre en cause, parce qu'elles ne prévoient d'ailleurs jamais leur fin. Voilà. Donc c'est un théorème. Au début, elles ont une intention, elles ont une utilité sociale qui justifie leur existence. Et puis au bout d'un moment, tout simplement, on finit par avoir un directeur qui dit « Ah oui, mais il faut quand même que je rende des comptes financiers, il faut que je remplisse. Ouais. » Voilà. Voilà, c'est Pôle emploi qui, avec ses stats, il faut faire disparaître le maximum de gens des stats, surtout avant les élections. Voilà, c'est... Alors, justement, il faut faire attention à ne pas retomber, je crois que ça a été évoqué par un intervenant, je crois que c'est le docteur Gosselin ce matin qui disait ça, il ne faut pas faire attention parce que, finalement, on peut très vite retomber dans de la routine. On peut très vite se retrouver dans une réinstitutionnalisation qui paraît plus tendance, etc. Bon, certains auteurs ont parlé d'ailleurs d'inclusive washing pour désigner ce faire semblant. Vous savez, c'est calqué sur ce qu'on appelle le greenwashing. Le greenwashing, c'est toutes ces entreprises qui aujourd'hui montrent patte blanche, sont dans la bien-pensance dominante, c'est-à-dire 100% français, 100% bio, 100% recyclable, dans le respect de l'environnement, pour le bien-être animal. Ouais. Tous ces mantras, vous allez les trouver partout, dans tous les documents des entreprises commerciales, sur tous les produits. Voyez, on vous dit même parfois que les vaches sont 100% françaises. Il faut qu'on dise que c'est une vache 100% française. Bon, enfin bon. Donc, on est vraiment, vous voyez, ça, c'est ça le greenwashing. Les entreprises ont compris qu'il fallait être dans la bien-pensance dominante. Voilà. Et en plus, ça évite de parler de produits, c'est génial. Et certains auteurs ont construit le concept d'inclusive washing pour les institutions sanitaires, médico-sociales en disant, oui, il y a aussi un faire-semblant. On met du case manager, on jure que par l'inclusion, etc. Mais attention, attention, parfois, on a affaire à du faire-semblant. Voilà. La réalité ne suit pas toujours les intentions. Donc, il faut toujours avoir ce petit déclic. Attention à la réinstitutionnalisation, à la rechronicisation, en quelque sorte, qui peut toujours menacer. Et je voulais vous citer une petite phrase, alors que j'ai retrouvée, là aussi. J'aime bien garder des vieilles revues. Je vais la retrouver. Hop. Voilà. C'est un texte qui est ancien, puisqu'il date de 1983. Il a été écrit par Guy Séraph. Alors, Guy Séraph, c'est un professeur à l'université d'Aix-en-Provence, si je me souviens bien, qui était le promoteur à l'époque de ce qu'on appelait le marketing social. C'est-à-dire, en fait, c'était l'idée déjà de partir des attentes des gens, de mieux cerner, en fait, les attentes des personnes. Et j'ai sélectionné dans un de ses articles ce petit passage que j'ai trouvé en tant que sociologue très très intéressant. Le défaut principal de l'institution au service public, c'est de tenir pour fondamentale la forme de l'institution d'abord, puis d'en déduire son mode de fonctionnement et le contenu de son activité. Et à partir de là, d'élaborer des règles de relation avec le public. D'où la tendance à ne considérer le public que dans la dernière phase de sa réflexion en le tenant pour passif et en lui imposant des règlements. Du coup, toute demande du public remontant vers l'institution se heurte à une réaction de défense en vue de refuser la remise en question du fonctionnement et d'esquiver le débat sur la pertinence et la qualité du service rendu. Il s'ensuit une extrême complexité et une volontaire obscurité des règlements et procédures. Toute réaction du public est considérée comme perturbation. On peut se demander si ce type d'organisme vise l'intérêt du public ou la subsistance du système en place. Alors, évidemment, ça ne s'applique pas à ce qu'on a vu aujourd'hui, qui représente la partie, je pense, émergée, l'iceberg. Vous n'avez pas fait intervenir quand même n'importe qui. Vous avez fait plutôt intervenir des gens qui sont dans la partie innovante, hein, c'est clair. Mais tant mieux, évidemment. Mais il faut savoir que dans l'ensemble des modalités de prise en charge, qu'elles soient d'ordre sanitaire ou médico-social, on n'est pas forcément si avancé que ce qu'on a entendu et vu aujourd'hui, et que ce texte, quand même, est encore d'actualité pour un certain nombre d'institutions. Oui. Alors, l'éducation nationale, par exemple, là, vraiment, le pompon, je crois, comme service. Vous savez que l'éducation nationale, c'est la plus grosse entreprise publique au monde. C'est une arme de guerre inventée par la Troisième République, mais aujourd'hui elle est en pleine décrépitude. Voilà. Donc il faut faire attention à ce risque de détournement finalement qui peut exister de toute institution de service public qui très vite peut oublier sa mission première pour chercher à tout craint à persister. Et on a vu qu'un des risques précisément du case management, ça a été évoqué là aussi, c'était la multiplication des case managers. Hein ? La multiplication, tout simplement parce que chaque institution veut garder la main, le contrôle sur son champ. C'était Patrick Goé, ex-adjoint au défenseur des droits, qui disait un jour dans un colloque, de manière ironique, si ça continue comme ça, il y aura tellement de coordinateurs qu'il faudra des coordinateurs pour coordonner les coordinateurs. C'est pas totalement absurde. C'est pas totalement absurde. Voilà. Alors, il y a un risque pour moi qui est tout à fait réel, c'est qu'on assiste à une multiplication effectivement des case managers par institution ou par champ. Ce qui fait que ça nuirait à l'objectif même de globalité qu'on recherche. Voyez, c'est une perversion du système, c'est une perversion de la doctrine. Le case management ne peut s'entendre que s'il n'y en a qu'un, par définition. C'est-à-dire qu'on est dans une recherche de simplification. Et si, par contre, c'est rajouter une strate, parce que certains, j'ai entendu certains d'entre vous qui pouvaient parfois l'évoquer, si on rajoute une strate, on a tout faux. Vous voyez, on perd l'intérêt même du case management, qui est d'introduire de la coordination, de la médiation, de la coopération, de l'ajustement. Mais il ne s'agit pas de multiplier les case managers, parce qu'à ce moment-là, ils rendraient essentiellement service aux institutions. Vous voyez, c'est très tentant. Voilà. C'est un impact sur les formations. Je vous rappelle qu'il y a quand même des formations qui mélangent la coordination de parcours et la coordination de services. Vous voyez, il y a des opérateurs qui disent « Bah oui, vous allez être coordinateur de parcours. Oui, mais aussi, vous allez aussi faire des remplacements. Vous voyez, vous allez aussi quand même rester éducateur. Vous allez remplacer, quand il y aura un éducateur absent ou un infirmier absent, vous allez quand même le remplacer. Bon. » C'est-à-dire que là, on détourne la fonction pour résoudre les problèmes de l'organisation. Là, il y a un risque. Oui, tout à fait, enfin, qu'on peut comprendre humainement, si vous voulez. Mais attention, attention, parce que c'est un détournement à terme de cette fonction. Donc, dans les formations, on l'a rapidement évoqué, hein, on a cité la formation de case manager à Tours, il y a d'autres universités qui sont sur les rangs, il y a le DU que j'ai cité de Bordeaux, vous avez l'Espace Santin, par exemple, qui est un organisme de formation privé qui propose également une formation. Alors lui, il s'est spécialisé sur les situations dites complexes, tout simplement parce que c'est un organisme de formation qui travaille avec AFNOR, donc sur les bases de certification. Et je vous le disais ce matin, il n'y a qu'une coordination pour le moment reconnue, c'est la coordination des situations complexes. Mais vous avez sur Lyon l'ENCIS qui propose une formation également dans ce sens. Donc ça se multiplie partout. Si ça vous intéresse, ces formations, prenez le temps de consulter les programmes, ce qu'on vous propose, parce que, encore une fois, il y a vraiment de tout. Voilà, il y a des certifiantes, des qualifiantes, des diplômantes, il y a des courtes, des longues, il y en a qui sont confuses, il y en a qui sont mieux, etc. Donc, pour conclure, si vous voulez, bon, comme toute nouveauté ou relative nouveauté, une doctrine, un courant, une méthode peut être victime de son succès. Voilà. Donc il ne faudrait pas, évidemment, je n'ai pas de crainte excessive en l'occurrence, mais il ne faudrait pas que le case management, en quelque sorte, soit victime de son succès, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme une recette magique, au fond, qu'il joue sur sa séduction, qui est réelle, mais que finalement, au bout du compte, on puisse le détourner ou le faire dériver et finalement ne pas arriver à lui faire jouer pleinement sa véritable utilité sociale. Voilà, donc, attention aux effets de mode, c'est un petit peu mon message. Mais cela dit, je pense quand même, pour conclure vraiment, que, et vous le direz dans vos réactions, il me semble, en tout cas, ayant participé comme vous à cette journée, que, même si je n'avais pas besoin d'être convaincu sur le fond, j'ai été séduit par les interventions, les témoignages, et j'avoue que, ils m'ont plutôt réconforté sur l'évolution des accompagnements, donc des personnes qui en ont besoin. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne mise en place de case management.